Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Oui, on se retrouve avec nos trois experts du jour. L'économiste Xavier Jaravel, le prof d'économie Erwan Tison et le journaliste Marc Vigneault de l'Opinion pour décrypter les enjeux économiques de cette dissolution de l'Assemblée nationale et puis décrypter aussi finalement tout ce qu'on a appris au cours de cette folle semaine avec les programmes des uns et des autres qui commencent à sortir. Xavier Jaravel, pourquoi clore la discussion autour de ce qui va être dans le programme du nouveau Front Populaire, indexation des salaires, indexation des pensions sur l'inflation, hausse du SMIC, retour de l'ISF, etc. Bon, on retrouve toujours finalement les mêmes recettes.
Oui, c'est une philosophie très différente de celle du gouvernement actuel. C'est un retour aux politiques plutôt de redistribution, avec des politiques comme l'indexation qui semblent peut-être de bon sens, mais qui en fait, Marc le disait tout à l'heure, dans les données, ne tiennent pas la route. C'est pas comme ça qu'on augmente les salaires à moyen long terme. Et en revanche, on a l'air de tourner le dos à la politique de l'offre, la baisse du chômage qu'on constate depuis 2015, les investissements dans l'innovation, la hausse de la productivité. La France a un énorme problème de productivité. Les sujets d'encore plus long terme comme l'éducation, qui ont l'air absents d'ailleurs du débat, mais qui sont des déterminants très importants de la productivité, de la capacité à diffuser et adopter les innovations. Et donc, à voir si ces choses-là changeraient après l'élection. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même assez surprenant que ces sujets-là, qui à mon avis rassemblent quand même une majeure partie de l'électorat. Les gens voient bien que la vraie lutte contre la précarité, c'est la réduction du chômage, que la hausse des salaires passe par la hausse de la productivité. Mais voilà, les partis au centre, pour l'instant, n'ont pas d'union du sens. Donc je pense que c'est aussi pour ça que dans les programmes dont on parle plus, là, pour l'instant, des autres forces politiques, parce qu'au centre, il y a plus de divisions.
Mais alors, quand même, Erwan Tison, j'entends ce que dit Xavier Jaravel. Et quand on regarde finalement le bilan d'Emmanuel Macron en termes d'emploi, il est quand même plutôt bon. En termes de pouvoir d'achat macroéconomiquement, il n'est pas si mauvais. Il est mauvais en termes de finances publiques, mais on est d'accord que dans les décisions des électeurs, pour les finances publiques, c'est une préoccupation assez lointaine. Donc, il a quand même fait baisser les impôts. Qu'est-ce qui explique, finalement, alors sans faire trop de politique, mais qu'est-ce qui explique à tel point son désamour, alors que son bilan économique sur les sujets qui intéressent concrètement les Français n'est pas si mauvais.
Et puis là, on pourrait ajouter que la France est première dans le baromètre d'attractivité en Europe depuis 7 ans maintenant. Le chômage, bon, effectivement, le taux de chômage français, c'est le troisième plus bas, enfin plus haut de l'Union Européenne, mais ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu...
Oui, mais jamais autant de gens qui ont travaillé.
Et ça fait 30 ans qu'on n'a pas connu ce taux d'activité, etc. Moi, je pense que c'est la question, sans rentrer dans des considérations politiques, c'est pas mon métier, mais la question, c'est peut-être celle du ressenti. Ou alors, soit on s'est habitué très vite à une situation économique, 7 ans en arrière, on aurait envié de manière extrêmement puissante, soit effectivement, il y a des questions de ressenti qui sont beaucoup plus fortes que les questions du réel.
Après Xavier et Marc, il y a quand même ce sujet qu'on s'emprégnant qui est finalement l'effondrement de pans entiers du service public. Et là-dessus, pour le coup, il n'y a pas eu d'inflexion considérable. C'est-à-dire l'école, la police, la justice, la santé. Est-ce que c'est pas ça, au fond, finalement, que les Français ont sanctionné Xavier Jaravel?
Oui, il y a ça. Mais juste pour rebondir aussi sur ce que disait Erwan sur les... Parce qu'on donne les chiffres macro, effectivement, baisse du chômage. Et en moyenne, ces chiffres sont justes. Mais c'est évident que vous avez des millions de personnes qui perdent leur emploi, qui restent au chômage. Et donc, vous avez toujours une grande partie de la population dans une situation difficile qui, parfois, va s'en sortir peu après, parfois pas. Et donc, quand vous avez des élections, vous avez un taux de participation de 50%. c'est pas très surprenant que vous ayez une partie de cet électorat qui s'exprime et qui dit que la situation est inacceptable. Mais je pense qu'il faut, il y a tous ces sujets-là, et après il y a aussi le sujet effectivement des services publics et notamment de l'école, où il y a eu des tentatives récemment, mais qui n'étaient pas portées fortement. Et l'explication que je vois, c'est aussi que politiquement, c'est pas des sujets qui se sont imposés autant que des choses comme par exemple la réforme de retraite, qui avait une dimension symbolique, et ensuite on mis ça au cœur de tous les débats.
Marc Vigneault.
Je crois que vous avez mis le doigt sur effectivement le sujet, c'est l'effondrement perçu des services publics, et en fait, il y a un décalage entre ce que peut faire l'action politique sur 7 ans. Les gens se disent, ça fait 7 ans qu'il est là, 7 ans qu'il nous promet une amélioration des services publics et on ne la ressent pas. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent, ce sont les politiques précédentes qui ont entraîné les problèmes, et que même si vous commencez à essayer de redresser la barre, et puis il y a un moment, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Alors les gens se sont dit, mais s'il y a de l'argent magique, pourquoi ne pas continuer à en mettre et arroser les services publics? Il y a cette idée un peu diffuse que si vous arrosiez l'argent d'hôpital, tous les problèmes de l'hôpital seraient réglés. Et quelque part, c'est vrai, mais il y a des problèmes de choix politique, parce qu'on ne peut pas tout faire avec le budget, et qu'on le veuille ou non, l'image d'Emmanuel Macron, c'est celle du président des riches qui a pratiqué une certaine austérité larvée sur les services publics, alors que au contraire, dans la dérive des finances publiques que vous mentionniez, le fait que la dette augmente, etc., il y a de l'argent colossal qui a été mis
à l'hôpital,
pour,
notamment.
Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, le budget de l'armée avait été sabré. On s'est rendu compte que la guerre était aux portes de l'Europe, et depuis 2017, Emmanuel Macron réaugmente le budget de l'armée. Ça coûte extrêmement cher. Sous Nicolas Sarkozy, le budget de la police avait été sabré. Pour faire des économies, avec des objectifs de réduction des effectifs de l'État, ça avait été le cas, etc. Et donc, il y a eu un réinvestissement dans les services publics, mais par ailleurs, par exemple sur la médecine, pour prendre un exemple très concret, si vous supprimez le numerus clausus en 2018, l'effet sur le nombre de médecins en 2023 ou 2024, début 2024, il n'est pas encore opérationnel. On vous dit qu'on va créer des maisons de santé pour regrouper les professionnels, pour qu'ils préfèrent exercer à plusieurs, que c'est plus le médecin à l'ancienne qui fait 60 heures, etc., etc. Pour développer ça, pour développer des assistants médicaux, pour obtenir que les médecins acceptent que les pharmaciens fassent des actes de santé de la vie quotidienne, faire une vaccination, vous voyez, piquer quelqu'un. Il a fallu le Covid pour dire on est tellement débordé, pour que la corporation des médecins accepte que les pharmaciens prennent délèguent certaines tâches. Et les pharmaciens n'acceptent pas que les infirmières, elles, puissent assumer certaines tâches. Et donc, si vous voulez, le changement de barre, il est très très lent. Il y a un point sur lequel Emmanuel Macron avait mis l'accent et qui a plutôt bien marché, mais c'est pas du tout perçu par les gens, c'est les maisons France Service, qui permettent de pallier au fait que l'administration s'est réorganisée et qu'elle avait effectivement abandonné certains territoires. Et donc maintenant, on a un espèce de portail d'entrée pour les démarches les plus simples pour dans la vie quotidienne, ces maisons France Service, mais ça ne va pas du tout assez loin. Ouais. Mais le problème, c'est tous ces partis qui vous disent que du jour au lendemain, ils vont changer les choses avec une baguette magique. J'aimerais bien voir comment le système de santé va évoluer sous le Rassemblement National, sous le Front Populaire. Alors là, il y aura peut-être plus d'argent à court terme. La question, c'est quelle est la crédibilité de cette stratégie, on l'a dit, vis-à-vis des finances publiques, etc.
Oui, c'est très intéressant, et je partage évidemment tout ce que dit Marc. Juste pour revenir à la question sur la perception de l'opinion, il me semble que dans les sondages, quand on demande quels sont les sujets principaux, il y a quand même beaucoup d'autres sujets qui arrivent avant les services publics, même si les services publics sont très importants, notamment le pouvoir d'achat, immigration. Et pour m'être intéressé un peu au sujet de l'école, l'école arrive souvent très très loin, dans ces sujets, vraiment beaucoup trop loin.
Oui, trop loin.
Alors, messieurs, on va conclure cette émission sur le thème de la productivité, parce que vous connaissez tous la citation de Paul Krugman, la productivité, ça n'est pas tout, mais à moyen long terme, c'est presque tout. Et avant d'aborder le thème de la productivité, je voudrais qu'on fasse le détour pour faire le lien avec le rapport du corps quand même cette semaine qui est sorti. Alors, rapport du corps intéressant d'abord parce que c'est un rapport du corps un peu new look, avec maintenant son nouveau président Gilbert Sept. Moins de scénarios qui partent dans tous les sens, un scénario central, donc une maniabilité peut-être un peu plus grande. Erwan Tison, ce qui nous a été présenté comme prévision prévision d'évolution de nos régimes de retraite est un peu plus pessimiste que la précédente version. Quelle leçon vous tirez, vous, de ce rapport du Conseil d'orientation des retraites ?
Les retraites en France, on cherche à financer une base croissante sur une base décroissante. On le voit, la démographie, malheureusement, est comme ça. On va avoir de plus en plus de seniors et de moins en moins d'actifs. Moi, ce que je vois dans les rapports du COR, donc là, effectivement, on a des hypothèses de productivité qui sont un peu plus crédibles, on va dire. On a quand même des hypothèses de productivité à 1,7 annuel dans le dernier rapport il y a deux ans, ce qui était quand même... Là, on peut parler d'insincérité. Moi, ce que je vois, c'est qu'on c'est marqué noir sur blanc qu'aujourd'hui, pour équilibrer le système, il faut qu'on aille à 66, 67 ans. Donc, on est très loin des 60 ans du Front Populaire ou des 60, 62 ans du Rassemblement National. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui en termes de... On a un déséquilibre macroéconomique profond sur nos retraites, avec des taux de récupération et d'actualisation qui sont délirants pour la régénération actuelle et qui sont très, très faibles pour ma génération, enfin, pour notre génération à nous. Pour moi, ce que je vois dans la lecture du COR en filigrane, c'est que la répartition est morte. Le système 100% répartition est mort, est complètement intenable. C'est pas faute de l'avoir répété. On avait été nombreux à l'alerter pendant les deux précédentes réformes des retraites.
Mais Erwan, c'est même, pardon de vous interrompre, mais c'est même dans la loi de 1941 qui crée ce régime par répartition, l'hypothèse du déséquilibre démographique qui mettra finalement le système en péril est déjà évoquée.
Bien sûr, et Lionel Jospin en 1997, programme commun de la gauche, il arrive, un des premiers trucs qu'il fait, il crée le fonds de réserve des retraites, un système par capitalisation, en disant, je le fais, je cite, pour pallier aux affres de la démographie défavorable à venir. Donc la solution, c'est, à mon avis, c'est quoi ? C'est que là, et malheureusement, ce sera complètement absent des débats, mais c'est pour ça qu'on ne prépare pas suffisamment l'avenir. On pourra, une tribune ce matin dans les Échos, on pourra en parler juste un peu après. Mais moi, si je peux me permettre de proposer une petite solution à nos amis candidats, accepter d'avoir de changer le système en introduisant un pilier par capitalisation. Comment on le fait aujourd'hui? On ponctionne 28% du revenu brut des actifs tous les mois pour financer ce régime de répartition. 28%, on était à 9% il y a une trentaine d'années. Donc on a une fuite en avant, on ne peut plus augmenter les cotisations parce que c'est beaucoup trop lourd. Moi, je propose de passer à 24%, de tracer un chemin sur 6 ans où on passerait de 28 à 24%. En gros, on fait une économie de 40 milliards. Qu'on ventilerait de la façon suivante. On continue à ponctionner 28%, mais les 4% qu'on récupère, on va en allouer 1% en augmentation du pouvoir d'achat, donc c'est 10 milliards qu'on donne immédiatement aux actifs, 1 milliard dans le financement de la dépendance. Je rappelle que les travaux de la chaire TDTE de Jean-Hervé Lorenzi nous disent qu'on est quand même sur une facture de 50 milliards d'euros par an à financer, et 2 points, donc 20 milliards qui seraient dédiés exclusivement à la capitalisation dans un fonds collectif obligatoire dont on ne toucherait pas pendant 15 ans pour profiter des intérêts composés derrière. Et comment on finance les 40 milliards d'euros de baisse des pensions de retraite? Par de la solidarité intragénérationnelle. C'est assez aberrant d'avoir trois choses aujourd'hui dans le système de retraite. Premièrement, un taux de CSG qui est plus bas pour les retraités que pour les actifs. Deuxièmement, un abattement fiscal de 10% sur l'impôt sur le revenu au titre notamment des frais professionnels. Et troisièmement, aucun mécanisme de solidarité intragénérationnel, alors que toutes les autres catégories professionnelles ont ce mécanisme de solidarité entre eux. Donc, on pourrait accepter justement de faire ça à trois objectifs. Premièrement, et qui cherchait à équilibrer le système. Deuxièmement, éviter d'avoir cette fuite en avant qui, en plus, socialement, est vue comme quelque chose de très injuste, d'avoir uniquement un report de l'âge avec, en plus, une baisse des pensions sur les prochaines années. Et troisièmement, d'avoir enfin une culture financière via un mécanisme de capitalisation qui, je pense, serait beaucoup plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui.
Marc Vigneault, sur ce rapport du Conseil d'orientation des retraites.
Moi, j'aime beaucoup ce que dit Erwan, mais je pense que dans le contexte politique actuel, c'est strictement impossible. On voit bien que, par exemple, Emmanuel Macron, qui cherchait des économies, disait, pour des raisons d'équité intergénérationnelle, ça pourrait être... on est tenté quand même d'explorer la piste de désindexation des retraites sur l'inflation. On voit bien que dans le contexte actuel, franchement, ça serait mettre le dernier clou sur son cercueil. Donc, il ne le fera pas. Et donc, il faut explorer autre chose. Pour revenir au rapport du COR, moi, ce qui me frappe, c'est que les Français n'ont pas conscience de ça, c'est que les dépenses publiques de retraite, c'est 24% de la dépense publique. Et ça dérive chaque année. Donc, si vous voulez un peu maîtriser les dépenses publiques, vous n'avez pas d'autre choix que de maîtriser les dépenses publiques de retraite. Est-ce qu'il faut maîtriser les dépenses publiques? Eh bien, dans une situation où on est à 5,5% de déficit et où la dette, compte tenu des taux d'intérêt, compte tenu de la croissance nominale, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en gros, si on reste à ce niveau de déficit, on va augmenter la dette et l'augmentation de la dette va devenir assez rapide. Et donc là, on risque un gros accident sur les marchés, en fait. Et donc, il faut à un moment maîtriser cette dépense publique de retraite. C'est pour ça que les deux parties qui vous expliquent que non seulement ils vont abroger la réforme d'Emmanuel Macron, mais qu'en plus, ils vont revenir à une retraite pour 60 ans ou 62 ans avec un certain nombre d'années de cotisation. En plus, ils ne le précisent quasiment jamais. Donc les gens croient qu'ils vont partir à 62 ans du jour au lendemain ou qu'ils vont partir à 60 ans du jour au lendemain. C'est totalement faux, puisqu'il faudra des années de cotisation qu'ils n'auront pas. Mais bref, je passe là-dessus. Mais en gros, ces projets-là, malgré le petit détail que je viens de signaler, c'est totalement ruineux. Et c'est mettre l'argent dont on a besoin pour faire face aux innovations technologiques, face à la Chine, trouver une voie entre la Chine et les États-Unis, qui c'est foutre de l'argent par les fenêtres pour un prétexte purement démagogique, et ça va coûter des dizaines de milliards. Moi, je me rappelle quand j'étais encore journaliste au Point il y a 2-3 ans, je m'étais amusé, j'avais appelé un économiste atterré qu'on peut pas soupçonner d'être très à droite, et je lui avais fait faire les calculs. Et il m'avait sorti des calculs, mais il me disait lui-même, ce n'est absolument pas crédible. En pleine campagne présidentielle, il me disait, c'est absurde.
Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire des exemples de pays qui sacrifient autant finalement leur jeunesse et leur avenir pour préserver les générations?
On est un des pays où le niveau de vie des retraités, c'est difficile à appréhender, le niveau de vie des retraités est à peu près égal à celui du reste de la population. Alors, dans le reste de la population, on ne met pas que les actifs, on met un peu tout le monde.
Et donc, des actifs.
Il faut relativiser. Mais c'est vrai qu'on a une préférence pour le niveau de vie des personnes âgées qui ont le capital, qui ont bénéficié d'une augmentation incroyable des prix d'immobilier. C'est une génération qui, alors elle va vous dire, nous on a travaillé 50 heures par semaine, vous êtes aux 35 heures, etc. C'est vrai que quand on est retraité, on ne peut pas ajuster son niveau de vie du jour au lendemain, on ne peut pas décider ou très difficilement de travailler plus pour compenser une désindexation des pensions. Donc ça c'est vrai, mais il y a un moment, en termes de choix intergénérationnels, ce sont les électeurs, ils votent massivement, donc on fait des choix qui leur sont favorables. Là où j'ai un problème, c'est que le système de retraite, même les projections du COR de cette année, elles sont beaucoup trop optimistes. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous explique. L'année prochaine, le COR, il va prendre une hypothèse de productivité qu'il juge beaucoup plus réaliste. C'est dans les changements pour que le rapport du COR devienne plus réaliste. Et donc, toutes les projections qu'on a données cette année vont encore se dégrader l'année prochaine. Et donc, si vous voulez, le discours de dire on va aller jusqu'à 66, 67 ans de retraite, à mon avis, il n'est pas crédible. Les gens n'en veulent pas et on comprend pourquoi. En plus, en France, on a beaucoup de mal à faire de la prévention de la pénibilité des métiers. Et donc, vendre aux gens qu'on va aller jusqu'à 67 ans, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir effectivement trouver peut-être d'autres solutions.
Mais il y en a une solution. Il y en a une. Miracle.
Laquelle ?
La productivité.
Ah bah,
justement, Xavier Jaravel.
Justement, j'allais revenir sur ce point. Parce qu'effectivement, on a tous en tête les évolutions démographiques.
Ouais.
Peser une pression plus forte sur le système.
Et ça, pour le coup, c'est-à-dire s'il y a bien des prévisions dont on est quand même à peu près sûr, c'est quand même celle-là.
À horizon 10-15 ans, oui, mais à horizon 20 ans moins. Et après, si on change de pied totalement sur la politique d'immigration, ça peut aussi changer la donne sur ce plan-là.
J'ajouterais que si on passe de 1,8 enfants par femme à ce qui est l'hypothèse centrale du corps pour l'instant, à 1,6 enfants par femme, ça fait à peu près les mêmes effets que si vous changiez de scénario de productivité. Donc vous vous rendez compte, il faut peut-être ajouter à l'équation le fait qu'on est sur 1,6 enfants par femme.
À horizon, effectivement, à horizon 30-40 ans. D'ailleurs, la Commission européenne fait des projections aussi de très long terme comme le corps. Et la France, en fait, s'en sort mieux que même l'Allemagne à horizon 30-40 ans, du fait de ces différences de taux de fécondité. Donc, il n'y a pas que la productivité, mais je vais en revenir à la productivité, parce qu'en fait, effectivement, le ralentissement de la productivité a un impact aussi important, voire plus important, que les transitions démographiques. Et ça, on en parle beaucoup moins. Enfin, si vous voulez, dans le débat public, je pense qu'on parle des grands débats. On parle souvent du vieillissement, de la transition écologique. On parle très peu du ralentissement de la productivité, qui en fait est un sujet central qui
irrite tous les autres. Dans ce rapport du corps, la productivité, c'est quand même électrocardiogramme assez plat, finalement.
Ils regardent la sensibilité des résultats à plusieurs hypothèses en allant de 0,4 4% de hausse de la productivité à 1,3. Je crois que leur hypothèse centrale, c'est 1. Donc, ce n'est pas une hypothèse qui me semble particulièrement optimiste. Mais c'est pour
dire quelques années, on était entre 1,8 d'hypothèse et 1. C'est vous dire le chemin parcouru par le corps pour.
Beaucoup plus réaliste maintenant.
Voilà.
Et c'est en partie. Quand même, quand on voit, on nous dit l'intelligence artificielle, on nous dit tout ça. Alors. Est-ce que tout simplement c'est parce que c'est impossible d'intégrer ce genre de bouleversement technologique, vous qui êtes un spécialiste de l'innovation, est-ce que c'est très compliqué d'intégrer tous ces bouleversements dans des prévisions de ce type et on préfère se dire on fait comme si ça n'existait pas et puis tant mieux si on a des bonnes surprises? Comment on l'appréhende?
On essaye d'avoir les bons ordres de grandeur, en fait. On va sur la productivité liée au gain d'intelligence artificielle, il y a plusieurs débats en cours, il y a des visions très optimistes, si vous parlez aux gens de la Silicon Valley, et des versions beaucoup plus pessimistes chez certains économistes et d'autres économistes qui sont sur une voie médiane. Et un chiffre, on pourrait dire, pour vous donner une idée de l'incertitude, c'est à horizon 10 ans, les gains de PIB qui pourraient être liés aux technologies d'IA et leur diffusion, ça pourrait être entre 1 point de PIB et 10 points de PIB à horizon 10 ans. C'est quand même une énorme marge d'incertitude. Mais pour revenir au corps...
Et on ne peut pas dire on se met d'accord sur 5.
Mais je pense que le corps le fait de la bonne manière. Je pense qu'en montrant l'intervalle, et comme le disait Marc, ils ont décalé leur fenêtre pour maintenant arriver dans une fenêtre d'analyse qui semble plus réaliste, plus intéressante. Donc aujourd'hui, cette année, on aurait un déficit de l'ordre de 5 milliards d'euros, alors que l'année dernière, on avait un excédent de 4 milliards. Donc, juste pour revenir sur pourquoi est-ce qu'en fait ça a changé. En fait, la raison principale, c'est la dégradation de l'économie ces dernières années. Donc, il y a un effet de base où on est plus bas qu'on pensait. Et donc, ensuite, ça décale toute la trajectoire. Donc, ça, c'est un effet très fort. Les hypothèses de productivité qui sont un peu plus pessimistes. Mais je pense que c'est vraiment, en fait, surtout cet effet de base. Et donc, dans ce contexte-là, il me semble qu'il y a deux écueils à éviter. Un, c'est de proposer quelque chose qui est complètement irréaliste et non financé. Il y a plusieurs options, malheureusement, sur la table qui semblent assez populaires. Et deux, c'est de dire qu'on ne peut faire qu'une seule chose, qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Et c'est vrai que la plupart des pays autour de nous ont un âge de départ plutôt de 65-67 ans. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres leviers. Erwan en a évoqué certains. Il y a la question de la désindexation de certaines retraites, même si c'est difficile politiquement, vu l'importance de cet électorat pour plusieurs formations politiques. Mais je pense qu'il faut aussi éviter de dire qu'il n'y a qu'une seule voie possible et que donc forcément, il faut davantage reculer l'âge. Mais il faut tout faire d'une manière qui soit financée.
Erwan Tison, vous publiez dans Les Échos aujourd'hui une tribune avec 4 autres économistes. Alors justement, parce que quand on voit finalement les solutions qui sont sur la table dans les programmes des uns et des autres, on se dit, mais c'est les mêmes solutions qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Et vous tirez la sonnette d'alarme sur le fait que finalement, tous les enjeux de demain sont quasiment absents et ne sont pas traités par les propositions de ces programmes.
Oui, on publie 4 autres économistes, donc il y a Maxime Sbahy, Antoine Lévy, Sylvain Catherine et Guillaume Bazot. On est parti du constat que le vrai électrochoc pour nous dimanche soir, c'était pas le fort résultat du FN, enfin du RN ou de la dissolution, c'était l'abstention massive des moins de 35 ans. 65%, entre 60 et 65% des moins de 35 ans n'ont pas voté. Donc on est quand même la génération qui est en train de préparer 2100, boude les élections de 2024. C'est un signal qui est quand même un petit peu...
Vous votez RN en majorité.
Non, il n'y a que 10% en fait des jeunes qui votent.
Oui, mais parmi RN, ceux qui votent...
Parmi ceux qui votent, ils sont à 10% pour RN et 8% pour... Donc c'est très peu. Il y a quand même 80% des jeunes qui ne votent ni pour l'un ni pour l'autre, ou alors qui ne votent pas du tout. Donc nous, on a essayé de comprendre ce phénomène-là en partant effectivement de la théorie économique. En fait, on voit complètement que pourquoi est-ce qu'ils votent pas? Premièrement, parce qu'on s'adresse pas à eux. Il y a aucune perspective aujourd'hui. Vous regardez les programmes, il y a une décorrélation totale entre les besoins de la jeunesse, on va dire des moins de 40 ans, et les programmes qui sont proposés. Quand aujourd'hui vous avez un budget, on va dire, le logement qui correspond à 35-40% de vos dépenses, du coup vous êtes obligé de renier à la fois sur la surface et sur vos projets d'enfants. Je rappelle qu'il y a une décorrélation totale entre quand on demande aux femmes combien d'enfants elles voudraient, on est aux alentours de 2,6-2,7, et on l'a rappelé, on est plutôt aux alentours de 1,8 avec des perspectives à 1,6. Donc on est quasiment deux fois moins, on a deux fois moins d'enfants que ce qu'on voudrait avoir. Parce qu'on n'a pas de solution pour les garder, parce qu'on n'a pas de place pour les avoir. Quand vous avez 28% de votre salaire brut qui est amputé justement pour une retraite que vous ne verrez pas, en tout cas dans l'imaginaire collectif, que vous ne toucherez pas dans des manières aussi généreuses que ce qu'ont eu vos grands-parents. Et quand en plus vous avez des gains de productivité qui sont en baisse, donc du coup des perspectives d'évolution salariale qui sont mornes, qui sont ternes, et un marché du travail qui reste quand même encore un petit peu trop sclérosé, bah vous vous dites, quelle est ma place là-dedans? Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on appelle quelque part un sursaut programmatique, même si on n'est pas non plus utopique à ce moment-là, mais ce qu'on propose dans cette tribune-là, c'est juste de se dire, ce qui serait pas mal, c'est évitons d'avoir le court terme qui en plus fait qu'en deux semaines, on doit fournir un programme clé en main. Et donc, de ce fait, on va reprendre à la fois les anciennes formules et aller chercher un électorat qui se déplace massivement, qui en plus, maintenant, historiquement, pour la première fois, vote pour le Rassemblement National. Ce qui n'était jamais arrivé avant dans l'histoire. Maintenant, on a les 14 milliards que le gouvernement a offert aux retraités, au final, n'ont servi à rien pour les européennes. Ouais. Donc, on dit juste avoir des propositions sur un choc d'offre dans le logement, un investissement massif dans l'éducation et la formation tout au long de la vie, avoir un service public de la garde d'enfants dès la naissance pour permettre justement une participation totale des parents à cet âge-là, et surtout d'avoir une réformation, transformation des retraites, j'en ai parlé avant, avec la capitalisation, et le tout peut-être financé aussi par une baisse effectivement du niveau de vie de la population inactive, des retraités. Winston Churchill avait cette phrase, hein, l'homme politique, c'est celui qui prépare la prochaine élection, l'homme d'État, celui qui prépare la prochaine génération. Nous, ce qu'on appelle dans cette tribune-là, c'est de se dire, profitons de la prochaine élection.
Mais aussi la prochaine défaite politique.
Ben, pas forcément, mais peut-être que la prochaine défaite politique peut préparer la prochaine victoire.
Allez, le mot de la fin pour vous, Marc Vigneault, la conclusion.
Bah, je sais pas exactement, on a dit beaucoup de choses. C'est vrai que, en tout cas, le sujet des retraites est incontournable si on veut miser sur l'avenir. On ne peut pas tout financer et donc on sait très bien que il faudrait une réforme de l'éducation nationale, il faudrait que notre système scolaire soit beaucoup plus efficace. C'était le thème du livre de Xavier Jaravel en partie sur l'innovation. Si on a un bon système scolaire, notre productivité, elle va augmenter. Ce qui est frappant, vous disiez Emmanuel, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une hausse de la productivité dans les prochaines années? Mais honnêtement, moi, je n'y crois pas du tout. On est le pays dont la productivité s'est le plus effondrée après le Covid. On a une main-d'œuvre qui est de moins en moins qui a de moins en moins les bonnes compétences pour travailler en groupe, ce qu'on appelle les compétences qui sont en dehors des compétences purement, si j'ose dire, scolaires, de coopération entre les personnes, etc. On a un management qui est complètement pyramidal, inspiré des techniques de l'administration avec le bureau A qui commande à 4 sous-strates, etc. Donc c'est cet enjeu-là qu'il faut s'occuper.
Juste Xavier Jaravel, pour démystifier un peu cette histoire de productivité, d'innovation, on est bien d'accord, l'innovation, c'est pas forcément la grande révolution technologique millénaire, c'est effectivement ce que dit Marc Vigneault, c'est la petite innovation liée au fait que vous avez un peu plus de temps pour vous former, pour pouvoir travailler, c'est aussi de la petite innovation de la vie quotidienne.
Voilà, c'est d'adopter parfois des nouvelles technologies, mais dans son activité concrète, et donc c'est pas d'inventer des nouvelles technologies, ouais. D'inventer des batteries, d'inventer l'IA générative, et plutôt d'utiliser ces nouvelles technologies. Donc, tout à fait d'accord avec ce que disait Marc.
Merci, messieurs Xavier Jaravel, Erwan Tison, Marc Vigneault, pour nous avoir permis d'y voir un peu plus clair, finalement, et finalement séparer le bon grain de l'ivraie de cette folle semaine. Beaucoup d'ivraie et peu de bon grain, quand même. Hein. Mais bon, espérons que la semaine prochaine sera un peu plus prometteuse. Eh bien, vous retrouvez Nicolas Dose, lundi, pour les experts.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.